Bonjour à toutes et à tous. On va commencer. Merci d'être venus aussi nombreux pour cette semi-plénière qui est intitulée Incorporation, domination et subversion. Je remercie également Christine Menson, qui est professeure de sociologie à l'Université de Toulouse, et Charles Sou, qui est professeur émérite à l'Université de Nantes, qui vont nous faire un papier à deux. Ça va alterner entre les deux intervenants. Cette semi-plénière, dans son contenu, va prendre plusieurs exemples de nombreuses situations d'incorporation, de domination, de subversion, ce qui va faire qu'on va avoir une multitude d'exemples qui vont être évoqués dans le temps et dans l'espace social. Donc il y aura une profondeur historique au propos, une profondeur institutionnelle, puisqu'on va traverser des institutions comme la famille, les fédérations sportives, l'église, l'école et éventuellement la médecine, si Charles le veut bien. En même temps, incorporation, domination, subversion, le titre est au pluriel, mais on aurait pu aussi le mettre au singulier, puisqu'il a une dimension éminemment anthropologique dans l'approche des objets qui sont pris en exemple, et puis dans le raisonnement qui leur est appliqué. Vous allez voir ça. Alors, on peut être surpris, hein, dans le résumé, de voir se mélanger des boxeuses avec des prêtres ouvriers, ou des footballeuses avec un pape ou éventuellement un roi. Donc c'est tout l'objet de la présentation de Christine et de Charles. Alors si vous prenez autant de plaisir que moi j'ai pris à lire le papier pour entendre Charles et Christine, vous allez passer un bon moment de sociologie. Et pour passer un bon moment de sociologie, on va vous demander... peut-être pas forcément de poser des questions directement à Christine et à Charles, mais plutôt de voir ce que eux vont raconter, quelles questions ça pose à vos propres objets, et éventuellement de commenter, de vous poser vous-même des questions par rapport au prisme de lecture qu'ils vont nous présenter. Donc on souhaite évidemment que ce soit très très interactif, mais j'en doute pas forcément. Donc là, je vous laisse la parole à tous les deux.
Merci Hassan, ça va, il faut parler près comme ça. Et à travers toi, je voudrais aussi remercier le sens et les organisateurs et organisatrices de nous donner l'occasion, à Christine et à moi, de vous parler dans le cadre de cette session semi-plénière. Alors hier, hier, Luc Boltanski, finalement, a ouvert cette session. Nous n'avions pas lu son texte, en disant cette phrase, la phrase suivante, les théories, en dressant ce constat, les théories de la domination sont rarement des théories de l'émancipation. Et il se trouve, sans concertation autre que par celle des habitus peut-être, je ne sais pas, notre intervention parle justement sur les chances conditionnelles de possibilité de passage justement d'un système de reproduction, puisque l'incorporation est souvent pensée, comme je vais le dire, dans le sens de la reproduction, passer de ce stade-là à un stade d'émancipation, même si le mot, nous ne le reprendrons peut-être pas à notre compte. Alors, donc, nous nous inscrivons un petit peu, nous voudrions prolonger ce type de réflexion. Deux remarques d'abord. Donc, comme l'a dit Hassan, nous parlerons à deux, mais en juxtaposant le moins possible nos interventions, c'est-à-dire nous suivons le même argumentaire dont je vais vous donner un peu le plan dans les minutes qui viennent, et en intervenant par alternance entre Christine et moi, et non pas premier topo, deuxième topo, puisque c'est le même argumentaire que nous entendons défendre, soutenir avec nos objets respectifs. La seconde remarque, pour dire que finalement nous ne traitons pas d'un objet spécifique en sociologie, Comme l'a dit Hassan, nous allons parler de sport, d'église, de politique, mais nous allons plutôt traiter d'une manière particulière de traiter ces objets. C'est une entrée qui est une entrée parmi d'autres. Il ne faut pas non plus en faire la seule entrée, ce serait complètement stupide, mais d'ouvrir cette entrée par l'entrée de l'incorporation et précisément du rapport qu'il y a entre les modalités incorporées de la domination sociale, pour être dans le thème du colloque. Alors, je voudrais apporter une petite précision par rapport au plan que vous avez, au résumé que vous avez, qui date de quelques mois. En fait, nous allons croiser les deux notions importantes, deux notions clés de la théorie sociologique, que sont l'incorporation et la domination. Alors, ces deux notions, le croisement, disons, de ces deux notions n'est pas en soi nouveau. Mais, et là, je rectifierai un petit peu ce qui est écrit dans le résumé, je dirais plutôt que cette association est parfois tellement évidente qu'elle n'est pas pensée pour elle-même. C'est-à-dire, on recourt à la notion d'incorporation, mais sans avoir un rapport suffisamment critique et sans tirer toutes les conséquences que l'on peut avoir autour de cette notion. Donc, justement, notre idée, soit un exemple, au mois de décembre dernier, un site consacré à la sociologie de Pierre Bourdieu a fait un inventaire a décliné le thème de la domination chez Bourdieu. Eh bien, le thème « domination et incorporation » ne figure pas dans cette longue liste, alors qu'elle est traitée sous d'autres aspects, mais en tant que telle, elle ne figure pas dans la liste, elle n'a pas été explicitée. Donc, notre intention est de ne pas nous contenter de ce présupposé, de ce lien qui peut exister entre incorporation et domination. Notre intention, c'est vraiment d'exploiter ce rapport, de le penser et d'aller le plus loin possible avec nos objets respectifs. Alors, pour justement essayer d'aller plus loin, l'idée, c'est de partir d'un constat que Luc Poltanski faisait lui-même hier, c'est que le plus souvent, le recours à la notion d'incorporation se fait pour penser les situations d'acceptation de l'ordre social, que ce soit l'ordre social, l'ordre culturel, l'ordre idéologique. Cette notion est utilisée dans la logique de la reproduction et de la contribution particulière de l'acceptation de la reproduction. C'est un fait dont que nous prenons très, très au sérieux, et on pourrait dire que cette association entre incorporation et domination est plus ou moins évidente, évidemment, suivant les terrains sur lesquels on est. Lorsqu'on fait la sociologie du sport, vous me direz, c'est difficile quand même de faire l'impasse sur le corps, même si certains collègues illustres, qui sont peut-être plus tellement au centre de la sociologie du sport aujourd'hui, se sont permis de croire complètement, de se laisser prendre à l'illusion des propriétés techniques des sports. Bon, autrement dit, même là où ça pourrait être complètement évident, il y a eu, toutes les illusions sont parfois possibles. Beaucoup de progrès ont été faits dans l'analyse et dans la finesse des analyses sociologiques. Tout ce qui tourne autour de la sociologie, de la socialisation, notamment de la socialisation scolaire, cette contribution, cette sollicitation du concept d'incorporation est de plus en plus présente, de plus en plus centrale. Donc là, on voit bien les choses avant. En religion, finalement, c'est pas nouveau. La sociologie Weber fait une place importante à l'incorporation des morales religieuses. Son fameux chapitre sur morale et classe sociale. Mais en religion, c'est peut-être parfois plus difficile. On y reviendra. Quoi qu'il en soit, quels que soient les terrains, le recours, la liaison entre incorporation et domination, est souvent pensée comme en mettant l'incorporation au service d'une imposition de normes, que ces normes, justement, soient implicites ou qu'elles soient explicites, comme dans le cas de la religion, où là, vous avez affaire à des propositions qui prétendent à la vérité, etc. Donc, les cas de figure sont éminemment différents. Alors, comment allons-nous nous positionner, puisque nous parlons à... Jusqu'ici, j'ai parlé tout seul, mais nous allons parler à deux voix. Toujours le piège de la domination masculine. Bon, bref. Alors, l'idée, c'est surtout, sous prétexte que Christine va surtout parler du sport, et moi je vais plutôt prendre mes exemples en religion, il ne faudrait surtout pas, alors ça serait la pire des choses, de penser que l'incorporation, au sens vraiment au sens strict du terme, vaut pour le sport, mais vaudrait beaucoup moins pour la religion, où là, nous accédons au domaine du spirituel, de l'intellect, du haut et non pas du bas. Alors, cette opposition-là est absolument à bannir. Et là, je fais allusion à un livre que je trouve vraiment formidable, le livre d'Arlette Farge, qui s'appelle « Effusion et tourment », les récits des décors, où elle fait l'histoire de la culture du peuple de Paris, des classes populaires parisiennes au XVIIIe siècle, et où elle prévient tout de suite le lecteur en disant « Attention, je prends l'entrée du corps, mais je ne prends pas l'entrée du corps parce que c'est parce que je m'intéresse au peuple et que cela va de soi que, s'intéressant au peuple, je m'intéresse au corps, à ce qui est lourd, à ce qui est bas, etc. » Là, on est dans le pur jugement de classe. Donc, notre objet, c'est vraiment l'articulation entre corporel et symbolique, quels que soient les objets que l'on prenne. Deuxième temps, sur notre prise de position, nous prenons acte que, effectivement, l'incorporation est un mécanisme extrêmement efficace de reproduction sociale, mais nous allons nous intéresser, justement, à cette phase plus dynamique, disons, en nous posant la question de savoir dans quelle mesure la même théorie, et c'est ça qui est important, la même théorie de l'incorporation, qui nous sert aussi efficacement à penser la reproduction, peut aussi nous aider à avancer dans une théorie de la mise à distance des normes, de la contestation des normes, voire de la subversion. Et comment il n'est pas nécessaire, ce serait une conception très réaliste de se dire, de recourir à une théorie autre, voire opposée, sous prétexte que nous pensons, là nous essayons de penser plutôt des comportements en termes d'émancipation. Et dernière idée avant d'attaquer nos objets, justement, le fait de faire référence à la même théorie de l'incorporation qui explique deux choses et qui annonce le plan que nous allons suivre. La première chose, c'est que lorsqu'on s'intéresse à la contestation des normes par incorporation, nous avons affaire à une force d'expression du corps qui est la même que celle qui est en jeu lorsque l'incorporation joue dans le sens de la reproduction. Donc il y a une force, on reviendra sur cette notion, la force expressive du corps. Le corps exprime des significations par son fonctionnement, etc. Et c'est cette force-là qui justement peut devenir, dans certaines conditions, une force de subversion. Mais deuxième idée, parce que justement les enjeux, parce qu'ils sont changés dans leur finalité et non pas dans leur structure, les mécanismes de contre-incorporation continuent d'être mis en dépendance du social. On n'échappe pas au social lorsqu'on est dans des stratégies de contre-incorporation corporelle. Et c'est ce qui explique le deuxième temps. Vous voyez, nous allons procéder en deux temps. Dans un premier temps, multiplier nos exemples sur nos terrains respectifs avec le thème « se construire par incorporation à contre-norme ». Et deuxième thème, pour exposer la force et les ambiguïtés fondamentales des ruptures par corps. Voilà.
Nous y allons. Merci Charles. Donc, pour débuter ce premier temps, se construire par corps à contre-norme, je vais essentiellement m'intéresser à des cas de figure où les normes sociales sont fortement incorporées, peu explicité, on va dire plutôt de l'ordre de la doxa que de l'orthodoxie, et je m'intéresserai essentiellement à la question du questionnement par corps des normes de genre, même si la même analyse peut être menée à propos des normes de classe. J'essaierai d'illustrer ce point-là brièvement. Alors, ce qui me semble important en préalable, c'est quand même de préciser que quand une femme s'approprie des pratiques, des attitudes, une exis corporelle, qui sont plutôt majoritairement observées chez les hommes, et inversement pour ces derniers, cela ne signifie bien sûr pas qu'elle a un comportement subversif en soi. La subversion, si subversion il y a, hein, parce qu'on va voir que ça peut se discuter, s'observe en fait au regard du type de catégorisation, de hiérarchisation que ces pratiques et que ces comportements impliquent, et de la distance aux normes, aux rapports de pouvoir qui sont en vigueur dans les espaces considérés. De ce fait-là, il me semble que la variation en fait contextuelle des effets potentiellement subversifs de ces apprentissages par corps est importante à prendre en compte et implique notamment d'articuler rapports sociaux de sexe et de classe. J'y reviendrai ultérieurement. Alors, pour discuter de ces apprentissages à contre-normes, je vais mobiliser deux types de données. D'une part, des données plus anciennes qui portent sur les expériences des sportifs de haut niveau dans des sports associés au masculin et sur l'expérience d'hommes investis de manière intensive dans des activités physiques féminisées. Et d'autre part, des données plus récentes sur la socialisation corporelle des enfants qui renvoient à une enquête que j'ai réalisée notamment en collaboration avec Martine Cour et Julien Bertrand que j'associe donc à ma présentation. Alors, l'idée principale de mon intervention, c'est de montrer que si le corps joue un rôle central dans la construction du genre, il est aussi, on va le voir, au cœur des expériences dites inversées. Dans cette perspective, comme l'a proposé Charles, j'aborderai donc deux points. Dans un premier temps, je vais m'intéresser à l'apprentissage précoce, par corps, pendant l'enfance, donc, d'usage atypique du corps, en questionnant notamment les conditions sociales qui structurent ces socialisations particulières. Et puis, dans un deuxième temps, je m'interrogerai sur la dimension subversive, ou pas, ou à quelles conditions, de ces socialisations à contre-normes par corps. Alors, dans un premier temps, je voudrais revenir tout d'abord, mais rapidement, sur le cas des femmes investies à haut niveau dans des sports masculins et inversement pour des hommes dans des activités féminisées. Ce qui caractérise en effet le mode de socialisation pendant l'enfance de ces enquêtés, je parlerai tout à l'heure de leur expérience, de leur socialisation sportive à l'âge adulte, ce qui les caractérise, c'est ce que j'ai pu appeler la construction de dispositions dites inversées, en référence notamment aux propositions que fait Charles à ce sujet. Alors, ce que je voudrais montrer, c'est que les processus d'incorporation, en fait, se situent au centre de ce travail d'inversion et vont agir à terme sur les modes de définition de soi. Et ces processus vont susciter et s'inscrivent en même temps à la fois, selon, on va dire, une forme de causalité circulaire, dans des relations sociales particulières. Alors, ce qui caractérisait mes enquêtés à l'époque, notamment les footballeuses et les boxeuses de haut niveau, et parallèlement, à contrario, ce qui caractérisait les hommes, alors on a notamment travaillé sur des nageurs synchro, des pratiquants de natation synchronisée et des danseurs classiques, professionnels, donc investis également de manière intensive. Ce qui caractérisait ces enquêtés, c'était l'apprentissage précoce de pratiques corporelles associées à l'autre sexe. C'est-à-dire que, finalement, les footballeuses, les boxeuses faisaient l'apprentissage très précoce, s'investissaient de manière précoce dans des socialisations sportives, intensives, compétitives, mettant en jeu l'usage de la violence physique, de la force, plutôt en compagnie de leurs pères, de leurs frères, de membres masculins, de leur réseau relationnel. Inversement, dans le cas des hommes, la socialisation sportive apparaissait peu importante, notamment quand on sait le rôle que joue la socialisation sportive dans la construction de formes de masculinité qu'on peut appeler hégémoniques. En revanche, une socialisation artistique assez importante compensait en quelque sorte l'absence de socialisation sportive, et cette socialisation artistique était plutôt valorisée, orchestrée par les mères. Donc, pour résumer, on a les sportives qui s'investissent très tôt dans des pratiques corporelles plutôt associées au masculin en compagnie de leur père ou des garçons, et inversement dans le cas des hommes. Ce qui veut dire que finalement, ce qui caractérise ces expériences, c'est bien sûr des usages atypiques du corps, mais pas seulement. Ils sont également associés à une forme d'inversion des relations intrafamiliales privilégiées et d'inversion de la participation au réseau relationnel enfantin, c'est-à-dire que les filles étaient majoritairement investies dans des réseaux relationnels masculins et inversement pour les garçons, et que bien sûr cette participation à des réseaux relationnels du sexe opposé renforce considérablement et est permise par l'apprentissage précoce de techniques corporelles particulières. Pour conclure sur ce premier point, on peut dire que les processus dont je viens de parler, l'apprentissage de techniques du corps spécifiques, l'inscription dans des relations sociales particulières, ces processus sont en fait consubstantiels et s'alimentent respectivement. Ainsi, le sentiment assez fort chez les enquêtés d'être prédisposés à des expériences genrées atypiques résulte de l'inversion des techniques du corps, des réseaux relationnels amicaux et des relations familiales intraprivilégiées. Or, bien sûr, ce processus ne se développait pas exactement de la même manière en fonction des caractéristiques sociales des familles. Il y avait des formes d'inversion qui étaient sensiblement plus fortes dans les milieux populaires, mais le coût, je ne sais pas si j'aurai le temps d'y revenir, mais le coût de ces inversions l'était également dans ce cas-là. Ce qui est remarquable quand on s'intéresse à d'autres types d'expériences atypiques que celles des footballeuses ou des boxeuses, par exemple, c'est qu'on constate la présence récurrente de ces formes de socialisation inversée dans d'autres exemples. Alors, par exemple, dans certains travaux sur le militantisme LGTB, mettent aussi en évidence l'existence d'un certain nombre de socialisations inversées. On retrouve également ce processus-là, je pense à la thèse de Julie Thomas sur les choix atypiques, les choix scolaires atypiques des filles, ou encore aux travaux qui sont bien connus de Catherine Marie sur les femmes ingénieures, et les femmes ingénieures, les pionnières, se caractérisaient aussi par ce mode de socialisation particulier. Alors, ce mode de socialisation particulier, je l'ai également retrouvé dans les enquêtes que j'ai pu mener avec Émilie Sablik sur l'engagement dans les pratiques homosexuelles dans les milieux des sports collectifs féminins. En effet, là aussi, il me semble que le corps joue un rôle central dans ces expériences, notamment parce que, doté de dispositions inversées plus ou moins fortes, les sportives constatent à l'adolescence qu'elles sont relativement discréditées dans les rapports de séduction avec les hommes. Et bien évidemment, si ces expériences ne conduisent pas systématiquement aux pratiques homosexuelles, l'intériorisation par les enquêtés de leur position défavorable sur le marché des rencontres amoureuses hétérosexuelles ne doit pas non plus être sous-estimée. En effet, dans les entretiens, si les footballeuses et les boxeuses étaient très prolixes et très positives sur leur expérience inversée pendant l'enfance, le passage à l'adolescence semblait beaucoup plus difficile et était marqué par leur prise de conscience de la distance entre leur existence corporelle et celle attendue des filles dans les rapports de séduction. Enfin, pour finir sur ce premier point, sur ce premier temps de l'exposé, je voudrais prendre l'exemple donc d'une deuxième enquête menée sur les enfants, qui présente l'intérêt en fait de pouvoir travailler sur ce processus sans avoir à travailler uniquement sur des données qui sont reconstruites ad post par les enquêtés, mais de pouvoir éventuellement observer ces socialisations dites inversées, de pouvoir aussi recueillir, par exemple, la position des parents. Autrement dit, travailler sur les enfants, ça permet d'une certaine manière d'ouvrir ce que certains appellent la boîte noire de l'habitus. Alors, je n'ai pas le temps de vous décrire l'enquête dans sa totalité, mais je voudrais juste donner deux exemples de... Qu'est-ce que les données dont on dispose nous permettent de dire à propos de ces subversions par corps et des conditions sociales qui les autorisent? Alors, je vais prendre deux exemples très, très rapides. Le premier, c'est celui des garçons qui montrent peu d'appétence pour le sport et dont on peut finalement repérer des formes de variation sociale de cet atypisme sportif. Alors bien sûr, il est difficile d'identifier des caractéristiques qui permettraient d'expliquer tous les cas d'atypisme, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on n'a pas suffisamment de cas de ce type-là pour systématiser l'analyse. D'autre part, parce qu'il y a des atypismes plutôt du côté des normes de genre et d'autres du côté des normes de classe, et ça ne coïncide pas systématiquement. Et puis par ailleurs, il y a certains atypismes concernent certains domaines de pratique, le sport par exemple, et pas d'autres, hein, ou au contraire les deux conjointement. Alors, je me permets juste de développer cet exemple sur les garçons. On constate en fait qu'il y a deux formes d'atypisme sportif chez les garçons. D'une part, celui qu'on observe dans certaines familles des milieux populaires ou des petites classes moyennes, peu investies dans les pratiques culturelles légitimes, où les parents, en fait, je vais m'arrêter sur cet exemple, où les parents, en fait, regrettent fortement le manque d'appétence sportive de leur fils. En revanche, dans d'autres familles, des classes moyennes, plutôt du côté des pôles culturels, des classes moyennes, l'atypisme sportif des garçons est fortement soutenu par les parents. Il renvoie à un style de vie familiale cultivé. Alors, je ne veux pas prendre davantage de temps pour développer cet exemple, mais on voit bien qu'il y a des variations sociales de ces expériences inversées et qu'évidemment, elles peuvent avoir un sens très différent. Je vais m'arrêter là pour cette première partie.
Je suis toujours dans la première partie, mais avec d'autres... études de cas. C'est-à-dire, Christine vient de vous parler surtout du sport, où les normes sont fortement incorporées, mais restent le plus souvent implicites. C'est la même hypothèse de subversion par corps, est-elle possible, est-elle encore valable, lorsqu'on a affaire à des institutions qui travaillent à l'explicite, c'est-à-dire qui ont cette fois-ci des propositions très fortes, avec une forte prétention à la vérité sous forme de croyances qui sont elles-mêmes même théorisées sous forme de théologie. Donc dans ce cas-là, le corps est-il encore opérant ou faut-il changer de registre explicatif? Je vous donne tout de suite ma réponse. Nous pouvons garder le même système explicatif. Mais pourquoi? Alors rapidement... vous savez que, là, moi, j'avais commencé, c'était ma première recherche sur les petits séminaires, qui m'avait conduit, je vais tout de suite à la conclusion, conduit à cette proposition que, finalement, l'inculcation à la fois d'une compétence sacerdotale, d'un habitus sacerdotal, mais d'une compétence au sens plus large, était une affaire intellectuelle, certes, il y avait une transmission de savoir, mais que l'objet premier de la pédagogie, c'était le corps, hein, qui incorporait précisément des principes fondamentaux de la théologie sous forme de dispositions, de manières de faire. D'où l'hypothèse suivante. Je me suis posé la question parce qu'il se trouve que 20 ans après, un certain nombre d'années, les hasards de la vie m'ont amené à travailler sur des prêtres qui étaient à l'opposé en quelque sorte de ces prêtres traditionnels, à savoir des prêtres ouvriers. Alors la question est la suivante. Je l'énonce pour gagner du temps. Si les propositions fondamentales d'une théologie sont acquises intellectuellement mais aussi par incorporation, dans quelle mesure une action de contre-transformation du corps au sens physique du terme peut prendre la signification d'une contestation de l'orthodoxie pouvant aller éventuellement jusqu'à la subversion, voire l'hérésie. Autrement dit, l'idée, c'est de prendre le corps comme un opérateur de changement, de transformation, y compris de transformation saint au sens le plus religieux, le plus spirituel du terme. Alors, en quoi les prêtres ouvriers, les prêtres ouvriers sont, là, la mise en contexte historique est complètement nécessaire, sont des prêtres qui, à partir des années 42-43, donc en pleine situation de guerre, ça c'est extrêmement important, s'il y a une période où l'institution est quand même fragilisée, d'une part par la guerre, d'autre part relativement invalidée par les liens entre la hiérarchie et Vichy, bref, il y avait quand même un certain tangage dans l'institution permettait des marges de jeu, donc ça, c'est pas complètement. Et puis la guerre a aussi produit des situations improbables, autrement dit, à emmener ces prêtres, notamment dans les camps ou en STO, dans des situations où ils ont rencontré des personnes. Alors ça paraît complètement évident, bon, le prêtre qui vous dit que ça a été la révélation de la révélation, ça a été de rencontrer un instituteur public, mais qui était d'une générosité formidable. Bon, alors on se dit, bon, c'est d'une banalité, mais cette banalité n'en était pas une. Bon, bref, donc autrement dit, fort de ces situations improbables, un certain nombre de prêtres, en fonction de leur socialisation, mais là je passe, un certain nombre de prêtres, finalement, je prends un vocabulaire volontairement corporel, ont ressenti un mal-être corporel. Bon, par exemple, le mot qui revient souvent, c'est étouffement. J'étouffais dans cette église, je ne savais pas trop ce qui m'arrivait, j'étais pas bien. Bon, il fallait que je m'en sorte, je ne sais pas trop de quoi, mais autrement dit, cette notion que le décalage entre la socialisation qu'ils avaient reçue et la situation qu'il leur fallait assumer était ressenti physiquement. Ce qui fait que ce que nous avons essayé de comprendre avec Nathalie Viette-de-Paul, c'est tout ce processus sans modèle préalable, parce que le seul modèle préalable, c'était le modèle du missionnaire qui allait convertir la Chine. Or, justement, eux, ils se sont dit, bon, on n'a personne à convertir, au contraire, c'est plutôt l'Église qu'il faut convertir. Autrement dit, ils ne suivaient pas, alors je ne dis pas par essai erreur, mais par expérience, ils ont été amenés, sans le savoir, finalement, à se mettre en situation de contre-incorporation. Et c'est ça justement qui les a amenés à devenir prêtres ouvriers, c'est-à-dire ouvriers à temps plein. Et comme disait Bourdieu dans un texte, finalement, c'est parce que le corps est exposé, mis en jeu, en danger dans le monde, affronté au risque de l'émotion, de la blessure, de la souffrance, parfois de la mort, c'est parce que tout ça, qu'il est en mesure d'acquérir des dispositions qui sont elles-mêmes ouvertures au monde, c'est-à-dire aux structures, etc. C'est-à-dire, ces prêtres ont découvert physiquement qu'ils étaient complètement enfermés dans un monde qui les étouffait et qui était à mille lieues du monde réel. Et finalement, cette idée de devenir prêtre ouvrier, c'était prendre le contre-pied systématique de ce que le séminaire leur avait appris, c'est-à-dire à être un homme séparé, coupé du monde. Là, ils se mettaient en prêtre ouvrier, c'est-à-dire ils étaient en situation d'affranchir le plus possible la frontière entre le prêtre et l'ouvrier, au point de vivre au milieu, d'aller ouvrir, et au point justement de cesser toute activité. Et je pense à cette phrase d'un prêtre ouvrier disant personne à baptiser, pas de sermon à faire, pas de messe. Je me demandais, mais qu'est-ce que je suis venu foutre là-dedans? Mais, disait-il, mais je sentais que je devenais différent. C'est-à-dire, cette mise en situation corporelle les mettait en situation, finalement, de comprendre, d'inculquer, d'incorporer, et en même temps d'incorporer physiquement, mais aussi mentalement, une sorte de révolution symbolique qui faisait d'eux des prêtres proche de la classe ouvrière et même consacrant la classe ouvrière. Et ce changement par corps a été tellement efficace que l'efficacité peut se mesurer à deux choses. Premièrement, à la dépossession de la hiérarchie devant ce corps de prêtres qui était en train d'instaurer un système, des modes de faire complètement nouveaux, mais sans que la hiérarchie, justement, c'est là la force, de la subversion par corps. C'est-à-dire, on ne sait pas quoi dire, parce que c'est là, c'est fait, le corps est là. Je me souviens qu'il y a eu une réunion formidable entre la hiérarchie et quelques prêtres ouvriers, hein, et le représentant de la hiérarchie. Non, mais j'étais suffoqué. Ces types, ils sont venus en civil, fumant cigarette sur cigarette. Je voyais les cendriers. Bon, intenable. Mais je me suis dit, mais qui c'est ces zombies? C'est plus des prêtres. Bon, donc, c'est comme ça que le. Bon. Mais la hiérarchie a été. Lorsque, bon, ils n'ont pas été vraiment condamnés, mais interruption obligatoire, donc ils ont été sanctionnés très très fortement. Pas un mot, la hiérarchie n'a pas été capable de dire le moindre mot de théologie pour justifier l'arrêt. Ça n'avait plus quoi dire. Bon. Donc, en même temps, une force extraordinaire. Et deuxièmement, la force de la subversion, c'est la force de la répression, car ils ont été réprimés. Suite d'ailleurs de théologiens, réprimés très 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 fortement, hein, sanction immédiate, 1er janvier 54, vous arrêtez tout ça, fini la récré, et l'institution doit reprendre le dessus. Bon. Alors, je passe parce que j'avais prévu d'autres. On va passer à la deuxième partie.
Tu as 10 minutes.
Mais non, mais parce que. Non, mais juste pour dire. Non, mais parce que ça m'a permis de relire Françoise Héritier. Et je trouve que la théorie de Françoise Héritier est très forte dans ce sens. Bon, parce que pour elle, l'origine à la fois anthropologique de la domination masculine, c'est le contrôle par les hommes de la fécondité féminine. Bon. Et c'est pour ça, et elle explique qu'elle a mis du temps à comprendre que justement, alors non pas, elle est assez subtile pour pas tomber dans l'illusion de la révolution technique, mais d'où sa théorie que la contraception est une véritable pratique révolutionnaire dans la mesure où corporellement ça change complètement, comme il dit, ça change et les règles du jeu, et intellectuelles, et sociales. Et pour juste un petit peu d'ethnologie locale, cette année, les mots d'ordre peints sur les murs de la fac ne sont pas toujours géniaux, mais celui-là était en disant « Lorsque les femmes s'aiment, S-A-I-M-E, les hommes ne récoltent pas. » Ah ben oui, donc là, ça met le doigt vraiment sur... Et j'avais l'effet de pape, mais vous y aurez droit.
Bien, donc dans cette deuxième partie, on va s'intéresser à présent à la force, mais aussi surtout aux ambivalences des ruptures par corps. Donc je vais essayer de répondre rapidement à deux questions. Que produit l'appropriation par corps de compétences attribuées à l'autre sexe? Et surtout, cet apprentissage par corps de contre-normes comporte-t-elle nécessairement une dimension subversive? Alors, c'est l'hypothèse que faisait Bourdieu, notamment, dans un article un peu tardif paru dans les Cahiers du genre. Il faisait l'hypothèse du potentiel forcément subversif de la participation sportive des femmes. Et je voudrais vous montrer que, pour une fois, il a sans doute été un petit peu optimiste. Pourquoi peut-on se questionner sur les ambivalences de ces ruptures par corps? Je vais essayer d'y répondre en trois points. Alors, tout d'abord, mais je ne voudrais pas passer trop de temps sur ce point-là, parce que j'en ai déjà beaucoup parlé, simplement souligner que les socialisations enfantines inversées dont j'ai parlé tout à l'heure ne questionnent pas radicalement les rapports sociaux de sexe. Si elles interrogent individuellement la relation entre sexe et genre, il me semble qu'elles ont plutôt tendance à renforcer la bipartition des catégories et la hiérarchie. On le voit bien, notamment dans les manières très différenciées dont les hommes et les femmes vivent ces expériences particulières, puisque les femmes, montant dans la hiérarchie, accédant à une position dominante, bénéficient des profits symboliques associés et parlent de leur expérience avec beaucoup de facilité et ont un avis très positif sur ces dernières, alors que pour les hommes, c'est beaucoup plus difficile et douloureux. Le deuxième point que je voudrais développer se voit particulièrement bien dans l'expérience des boxeuses de haut niveau. En effet, ces dernières, et notamment celles que j'ai appelées les boxeuses dites « hard », c'est-à-dire celles qui font du combat comme les hommes, avec la règle du chaos, à haut niveau. Ces boxeuses, bien sûr, s'approprient ce qui se situe au cœur de la construction du masculin dans les milieux populaires dont elles sont majoritairement issues, qui est l'usage de la violence physique. Indéniablement, le fait qu'elles s'approprient l'usage de cette violence, qu'elles soient performantes sur le ring, qu'elles aient la suprématie physique sur un bon nombre de leurs partenaires d'entraînement, ça change forcément les relations à l'intérieur du gym. Néanmoins, là encore, ça n'implique pas un questionnement radical des rapports sociaux de sexe, parce que, par exemple, une bonne partie de ces boxeuses dites « hard » revendiquent la domination masculine comme forme de gestion de leur vie privée. Alors, comment on peut comprendre ce paradoxe ? C'est ce constat qui est parfois expliqué par une hypothèse de compensation. Hein, elles vont chercher à compenser leur performance physique par une hyper-conformité dans le domaine privé. Il me semble que leur comportement renvoie bien davantage à leur socialisation intensive et précoce dans le milieu sportif et dans un milieu sportif populaire. Et que la force de cette socialisation est renforcée par le fait qu'il y a également une forte homogamie en ce qui concerne la mise en couple, hein, et qu'elles vivent notamment souvent en couple avec des boxeurs qu'elles côtoient quotidiennement au sein du gym. Et donc on peut dire que la socialisation pugilistique est d'une certaine manière, en termes d'apprentissage corporel, complètement ambivalente, c'est-à-dire qu'elles apprennent conjointement à user de la violence physique et en même temps à, entre guillemets, reféminiser leurs attitudes et leurs comportements. Sous la pression, bien sûr, hein, de l'ordre ordinaire des choses qui régit les interactions au sein du gym. Alors, cela n'annule pas la subversion sur le ring, mais en limite singulièrement la portée dès lors qu'elle le quitte. Le troisième point que je voudrais développer rapidement, c'est celui-là du coût de la subversion. Et je vais plutôt, pour illustrer ce point-là, prendre l'exemple des footballeuses qui, bien plus que les boxeuses, finalement, questionnent les rapports sociaux de sexe dans leur pratique, puisque, pour aller très vite, ce qui caractérise la socialisation footballistique de haut niveau dans les équipes féminines, c'est que les sportives affichent majoritairement une certaine distance à l'égard de ce qu'on peut appeler les normes sexuées, notamment à l'égard du travail de l'apparence, par exemple, et qu'elles sont un certain nombre à questionner également les normes hétérosexuelles. Néanmoins, cela ne se traduit pas non plus par des formes de mobilisation collective. Non. Donc il y a une espèce de paradoxe entre le monde sportif qui offre finalement la possibilité d'expérience par corps à contre-norme et l'absence complète de mobilisation genrée dans ce domaine de pratique. Alors là aussi, très rapidement, comment on peut comprendre cette situation ? Ben, il me semble que la socialisation inversée qui organise les relations, les modes de sociabilité au sein des équipes de football féminin n'annule pas en fait les rapports de pouvoir très défavorables des femmes dans la Fédération française de football. Et que dans un tel contexte, le coût de la subversion peut être particulièrement élevé. Exclusion de l'équipe par l'entraîneur ou par les dirigeants, notamment pour les joueuses qui affichent leur pratique homosexuelle, ou vie restreinte à l'entre-soi pour celles qui préfèrent que ces pratiques restent relativement invisibles. Impossibilité d'accéder à des emplois au sein de la fédération pour des joueuses qui ont souvent abandonné leur carrière scolaire, etc., etc. Hein? Il me semble que ce coût de la subversion, pour finir, se voit également, hein, juste pour dire deux mots de l'enquête plus récente, se voit également particulièrement bien dans le cas dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est celui des garçons qui ont peu d'appétence pour la pratique sportive. On a observé les enfants dans les cours de récréation, et ces garçons particulièrement font l'objet de processus de stigmatisation et d'exclusion qui sont particulièrement forts. et qui font, par exemple, que même l'un des enquêtés, qui appartient pourtant à une famille particulièrement favorisée, donc ses parents soutiennent sa distance à l'égard de la pratique sportive, lui-même a un discours très critique sur les garçons sportifs, il n'hésite pas à user d'une certaine violence symbolique pour souligner qu'ils n'ont pas grand-chose dans le ciboulot, par exemple, et bien, même Samuel va demander à son grand frère de l'entraîner en cachette chez lui à faire des passes de football pour que quand même il n'ait pas l'air trop nul en cours de récréation.
Alors, je continue sur le même thème des ambivalences fondamentales de ce qu'on peut appeler ces subversions par corps, en m'appuyant déjà sur la conception même anthropologique du corps et du mode d'expression du sens du corps. C'est-à-dire, il y a deux principes qui peuvent, pour moi, sous-tendre ces ambivalences. Premièrement, il faut s'entendre sur ce qu'on entend par langage du corps. Et là, je pense, pendant les vacances, est paru une traduction d'un livre célèbre du beau musical où Hans Lick s'en prend à la notion de langage musical. La musique, il y aurait un langage de la musique. Et là-dessus, on risque de prendre le mot langage comme un langage articulé, etc. Bon. Bref, donc, je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il dit, mais au moins retenir cette précaution en disant, quand on parle du langage du corps, de quoi parle-t-on ? Or, justement, il y a une spécificité du mode d'expression, c'est que le corps, d'une part, exprime des significations qui ne sont que des codages historiquement situés, et deuxièmement, qu'il y a cette fonction d'expression syncrétique, c'est en même temps, vous avez une multitude de significations. On peut le lire comme un corps vieux, un corps d'homme vieux, prolo, intello, et tout ça, c'est en même temps. Donc il y a ce mode d'expression se prête particulièrement à des reconstructions, à des sélections, etc. Donc ce mode d'expression de sens est fondamentalement ambivalent. Deuxième source d'ambivalence, justement, en tant que subversion du corps, souvent ce sont des subversions peu parlées ou qui sont parlées par ceux contre qui cette subversion est destinée. Pour les prêtres ouvriers, ça a été évident. Ils étaient répartis, ils parlaient entre eux, etc. Mais ils ne faisaient pas de proclamations, de grandes... Bon. Par contre, ils ont été abondamment parlés par qui ? Par la hiérarchie, qui ne s'est pas privée de donner le sens que... Évidemment, sens, proximité avec le communisme en pleine guerre froide, PC triomphant, etc. Ces ennemis de l'intérieur, arrêtez-moi tout ça, extrêmement vite. Donc, cette idée que. Finalement, on arrive à cette idée qu'une subversion par corps n'est véritablement. On sait qu'elle est très efficace par les effets qu'elle peut avoir sur les institutions, mais on sait en même temps qu'elle est efficace à condition de l'inscrire dans toutes les luttes symboliques qui accompagnent ces subversions par corps et qui tendent à donner le sens. Bon, je vois pendant les vacances Le Monde du 13 juin, deux articles, un article à gauche, un article à droite, à propos du mouvement Femen en Tunisie, le titre de gauche, Solidarité avec Amina comme arme politique, la nudité des femmes à sa place dans le monde arabe, et puis à droite, les Femen, un féminisme de type néocoloniale, ces militantes doivent tenir compte des... Bon, et c'est là que ça se complique au niveau de... Bon, idem pour les suicides, les démarrages de révolution des printemps arabes, un suicide, bon, c'est déjà un choc corporel extraordinaire, mais qui ne prend son sens que par le sens... Bon, bref. Alors, dans le cas des prêtres ouvriers, alors ça c'est évident, et en plus, ces subversions par corps se font toujours... Il y a un rapport au temps, un rapport au rythme du changement. Ça se passe toujours dans des temps rapides et à forte dose d'affectif. Ce qui fait que la mobilisation, il y a toujours de la réflexivité. Ne me faites pas dire que parce qu'on parle d'incorporation, il n'y a pas du tout de réflexivité. C'est pas, mais néanmoins, la réflexivité en prend quand même un coup, si je puis dire, compte tenu des modalités par lesquelles ça se passe. Exemple, les prêtres ouvriers, juste avant 54, reçoivent une lettre via leurs évêques annonçant la cessation de leur activité, sous peine de sanction. Et où c'est la hiérarchie qui emploie le mot « vous devez vous soumettre ». Et les prêtres ouvriers se sont réunis comme en conclave, comme les apôtres le jour de la Pentecôte. Bon, et la moitié était pour, la moitié, qu'est-ce qu'on fait? On arrête, on continue, c'était très bon. Mais ils n'ont rien trouvé de mieux que de s'appliquer une double peine, c'est-à-dire en s'attribuant à eux le mot « soumission ». Et ils se sont attribués cette étiquette. Alors, il y a eu les soumis et les insoumis, des gens qui étaient séparés par une feuille de cigarette, c'était les mêmes, mais parce que les uns hésitaient un peu plus longtemps. Et c'est devenu une fracture incroyable, bon, aujourd'hui ils sont presque tous morts, mais qui existe encore, encore aujourd'hui. Deuxième effet de ligne ambivalence, c'est ces ruptures par corps permettent difficilement de dépasser ce qui est socialement et idéologiquement pensable. Et les prêtres ouvriers ont effectué, je l'ai dit, une rupture extrêmement importante, mais je dirais une rupture sociale. C'est-à-dire, prêtres ouvriers, ça a permis de dénoncer, et ils l'ont fait hautement, une église de classe qui avait pris position pour le patronat, pour les classes dominantes, contre, bon, etc. Ils se sont arrêtés là. C'est-à-dire, ils n'ont jamais, ou certains, ceux qui l'ont fait, ont été alors cassés complètement. Ils n'ont jamais pensé qu'un prêtre ouvrier, c'était un prêtre laïque, que c'était un laïc ouvrier. Autrement dit, que cette association pouvait conduire à la négation de la frontière fondamentale sur laquelle l'Église fonctionne, qui est cette frontière entre les prêtres et les laïcs. Et officiellement, ils n'ont jamais remis en cause, sinon c'était une sorte de protestantisation, etc. Donc les prêtres ouvriers, alors, finalement, ils se sont fait reprendre par l'institution, ils sont devenus aujourd'hui, ils sont presque tous retraités, c'est des prêtres des pauvres, bon, mais ça mange pas de pain, bon. Depuis 65, d'ailleurs, le mot prêtre ouvrier, c'était une des conditions de la reprise, vous ne vous appellerez plus prêtre ouvrier, mais vous vous appellerez prêtre au travail, c'est-à-dire une manière de réaffirmer, vous êtes prêtre, pas autre chose, ne jouez pas au laïc, c'est pas votre truc. Oui, alors nous arrivons à la conclusion.
Bien, alors très rapidement, je rappellerai simplement trois points pour structurer peut-être le débat. Tout d'abord, le fait que ces apprentissages par corps, à contre-norme, s'inscrivent dans des relations, des configurations sociales qui sont spécifiques et produisent des effets symboliques qui les renforcent dans le même temps. C'est-à-dire que, comme nous l'avons signalé en introduction, loin de s'opposer, ces deux processus s'alimentent bien sûr respectivement. Deuxième point, l'apprentissage par corps de contre-normes peut susciter en fait des effets très différents. D'une part, selon les caractéristiques du contexte, on voit bien la différence hein, entre le foot et la boxe, ou les caractéristiques des conjonctures, mais aussi bien évidemment selon les caractéristiques sociales des individus concernés. Enfin, la dimension subversive de ces incorporations particulières peut être très variable, limitée à un contexte particulier, plus transversale, et surtout, elle s'accompagne de coûts qui peuvent être plus ou moins importants.
Et alors, parler de subversion par corps, bien évidemment, ça fait penser, pourquoi n'avez-vous pas dit là, encore le mot prophète, prophétisme, on y pense spontanément. Et moi, j'aurais envie, effectivement, d'éviter, bon, si on veut éviter cette classification idéale typique, bon, est-ce qu'il est prêtre, est-ce qu'il est prophète, etc., c'est de suggérer de mettre en relation deux choses, de mettre en relation bon, la théorie du champ avec les positions concurrentielles, etc., et de mettre en regard de ces positions la structure du capital, avec le fameux article que je trouve très important sur les trois états du capital culturel, hein, incorporé, institué, objectivé. Et se dire que finalement, suivant la position occupée par les agents religieux, mais on pourrait dire par les agents politiques, eh bien, les agents puisent stratégiquement, inégalement, dans ces différents types de capitaux, selon, en puisant en majorité, disons, principalement, le type de capital qui est le plus efficace. Et justement, la situation du prophète, c'est celui qui est en position de privilégier le capital par corps, dans cette logique de contre-incorporation. C'est-à-dire, ça lui évite de tomber dans le débat institutionnel, dans le débat théologique. Un débat, ça dure, on cite des textes, on se réunit. Bon, c'est fichu, si vous vous réunissez là-dessus, c'est foutu. C'est là où toute la force... autrement dit, la logique prophétique, c'est une logique d'un individu qui est mis en situation de mettre... si on prenait une image musicale, de mettre en dominante le registre corporel parce que c'est le plus efficace, non pas qu'il ne soit pas réflexif ni intellectuel, mais pour faire passer, pour agir, il est en position, c'est le... Alors, je prends deux exemples, bon, juste, et je termine là-dessus, c'est un travail de thèse qui est en train de se faire à l'IEP de Bordeaux, quelqu'un qui travaille sur José Bové, et justement en me servant des prêtres ouvriers, et elle compare à un moment Bernard Lambert, qui est un agriculteur très célèbre localement, qui en 68 était justement ce leader contestataire, un vrai agriculteur, hein, qui avait fait les agriculteurs et la classe et la lutte des classes, etc. Alors, juste pour résumer dans la logique prêtre-ouvrier, c'est-à-dire Bernard Lambert, c'est un agriculteur qui se fait penseur marxiste, mais donc capital intellectuel, objet. Bon, mais pour subvertir le statut d'agriculteur. Pour dire, les agriculteurs ne sont pas des propriétaires, les agriculteurs sont des salariés, etc., comme les autres. José Bové est un idéologue qui se fait agriculteur, non pas pour subvertir l'agriculture, mais pour subvertir les théories du développement, etc. C'est-à-dire pour agir sur le terrain sur lequel il est, non pas l'agriculture, mais la politique. Donc, on voit comment, justement, ce type d'analyse peut permettre, en situant bien les gens, de bien comprendre leur stratégie, quoi.
Bon, ben, je pense qu'on peut les applaudir chaleureusement pour cette belle présentation.